Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Pour cette édition de Logosphère, nous allons écouter la seconde partie du reportage de Quentin Bidot qui s'est rendu à Saint-André-des-Eaux, petit village situé au sud de Dinan. Quentin y a rencontré Pauline et Clément, qui sont tous les deux des habitants du hameau léger du Placy. Qu'est-ce qu'un hameau léger ? C'est un lieu de vie participatif accueillant un petit nombre d'habitats réversibles et écologiques, accessibles aux foyers modestes et qui se construit en partenariat avec la commune qui l'accueille, en l'occurrence Saint-André-des-Eaux. Eh bien, dans ce reportage, Pauline et Clément, au micro de Quentin, nous présentent ce qui les a amenés justement à s'investir dans cette association du hameau léger, ainsi que de s'installer justement à Saint-André-des-Eaux. Le hameau léger du Placy, seconde partie, c'est tout de suite dans Logosphère sur les ondes d'univers 99.9.
Deuxième partie de notre reportage sur le hameau léger du Placy à Saint-André-des-Eaux. Dans la première partie, Pauline et Clément m'ont fait le tour du propriétaire. Et dans cette deuxième, nous nous sommes posés pour discuter de tout ce qui sous-tend leur démarche et leur initiative, la reprise de l'éprouvette, le café-concert, et qu'ils me parlent un petit peu d'eux aussi. Voilà, je suis content de vous partager ce petit moment.
J'ai quel âge ? Ah oui, c'est bon. J'ai 26 ans. Je m'appelle Pauline, j'ai vécu toute ma vie à Paris, jusqu'à il y a 2 ans, où j'ai rencontré la bande de Joyeux Lurons avec lesquels je vis, et j'ai fait des études en médiation culturelle, et ensuite en urbanisme et développement des territoires.
Moi c'est Clément, j'ai 27, ouais. Et je viens d'Alsace à l'origine. Et suite à un voyage en vélo de 5 mois, j'ai découvert ce petit monde hameau léger où j'ai commencé un service civique de 8 mois. Et j'ai vraiment été ravi de cette expérience. À la base, oui, je suis de formation... j'ai fait une formation d'ingénieur en mécanique et aussi dans les énergies renouvelables en Allemagne pour aussi trouver plus de sens. J'ai fait une petite spécialisation et au fur et à mesure de mes études, j'ai fait pas mal de voyages à l'étranger. J'ai découvert différentes communautés. J'ai fait du woofing, c'est du volontariat dans des fermes biologiques. Et j'ai vraiment apprécié ce mode de vie, d'être plus dans... le faire ensemble, le partage. Et j'ai commencé à me passionner aussi tout ce qui est autour du maraîchage, la construction. Et j'ai aspiré à être plus dans le faire. Parce que pendant mes études, c'était beaucoup de conception et j'avais un peu un ras-le-bol de ne pas assez mettre en pratique, tester et ajuster. Enfin, ouais, ça me manquait beaucoup. Et à travers l'asso, justement, j'ai pu... vraiment mettre en pratique mes connaissances, notamment à travers l'organisation d'événements sur la transmission de savoir autour de l'autonomie énergétique qu'on appelle des low-tech, qui sont opposés aux high-tech, qui sont plus des outils, un ensemble d'outils techniques qui sont plus simples à fabriquer. On peut réparer, on peut les démonter facilement, plus voilà, durable aussi. Dans le temps et aussi pour la planète, utilise moins de ressources rares et accessible financièrement. Donc c'est un petit domaine qui me passionne bien et ça donne plus de sens à mon cursus d'ingénieur. Toujours un peu le côté technique qui me stimule bien.
Toi, à la limite, enfin l'association, que ce soit l'association dans laquelle on s'est rencontrés à Molégé ou le projet du Placy, c'est effectivement ça n'a pas d'impact direct sur les questions d'agriculture. C'est, enfin, à la limite, ce qu'on fait de différent, c'est sur l'habitat. Je pense que la confusion, elle est liée au fait qu'on a... Enfin, mon interprétation de la confusion qu'il y a eu du... On est des gens qui vont venir re-questionner les modèles agricoles ou les pratiques des agriculteurs locaux, je pense que c'est pour moi, c'est lié au fait qu'on représente une caricature, enfin, c'est mon interprétation, mais une caricature, si on ne nous connaît pas, si on ne nous a pas rencontrés, des jeunes qui arrivent sur un territoire, qui ont des valeurs écologiques et qui vont vouloir enseigner aux autres comment on devrait vivre, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que dans notre posture, on a vraiment essayé déjà d'aller à la rencontre des gens pour casser le côté il y a le projet du hameau du Plassy, il y a un groupe et les habitants de Saint-André-des-Eaux. Enfin, aujourd'hui, moi, je me sens habitante de Saint-André-des-Eaux complètement. C'est un truc qui est pour moi super important dans ce qui s'est passé quand on est arrivé à Saint-André-des-Eaux. Et même quand il y a eu des journalistes qui nous ont interrogés, etc., je comprends l'entrée par le d'où vous venez en tant qu'individu, qu'est-ce que vous faites. Mais je t'en faisais part au téléphone. Pour moi, parfois j'ai l'impression que cette approche-là, elle crée des oppositions identitaires il y a des nouvelles personnes qui arrivent avec telle pratique, telle culture, elles vont venir remettre en question ce que nous on vit, ce que nous on fait depuis des années, alors que on n'a jamais voulu enseigner à d'autres leur manière de vivre. C'est juste nous, on a envie de vivre comme on a envie de vivre et on respecte le fait qu'il y ait des différences là-dessus. Par contre, il y a quelque chose de politique pour moi dans ce qu'on fait et je trouve que dans les débats sociétaux sur l'écologie, sur les questions sociales, souvent, j'ai l'impression qu'on rabaisse le niveau à une opposition identitaire en catégorisant les gens dans des cases, ce qui permet d'éviter tout sujet sur les problématiques structurelles et sociétales. Et j'ai été un peu parfois déçue de certaines interventions, certaines personnes qui sont venues nous poser des questions. C'est pas le cas du tout de tous, hein. Et qui finalement venait créer une opposition un peu caricaturale que j'ai pas ressentie en arrivant sur le terrain. Je suis complètement partie en sucette, ça n'a rien à voir avec la question initiale.
Non, mais c'est intéressant.
Saint-André-des-Eaux, c'est un village de presque 400 habitants, situé à une vingtaine de kilomètres de Dinan, d'une grande ville. Et même d'une petite ville à Évran à côté, qui est vraiment avec tous les commerces, les services. Et dans ce village, il y a un café-concert, le dernier commerce du village, qui est vraiment le lieu de vie du village, en fait, de rassemblement de tous les villageois. Et souvent on me dit, ah, mais en fait, il y avait un ami qui est passé ce week-end, et il me dit, j'ai pas l'impression que c'est un village parce que on arrive sur la route, il y a ce café et on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'habitants. Et en fait, c'est pas forcément au centre-bourg, mais c'est. Et tout derrière, il y a vraiment au niveau près de l'église, il y a plein d'habitations. Donc. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de personnes et je trouve vraiment la beauté du village, c'est vraiment l'entraide et la solidarité entre les habitants. L'ouverture, oui, le fait de se retrouver là. Il y a plein de rencontres chouettes qu'on fait, intergénérationnelles. Et aussi, qui est incarné à travers la mairie, le maire, qui est beaucoup dans la générosité. Nous, on est placé un peu à 200 mètres du café-concert. On peut y aller à pied. Et après, quand tu continues un peu plus loin vers... sur du village, il y a le jardin partagé, à peine de 50 mètres.
À la fois sur l'éprouvette et sur le reste, sur le côté solidarité, il y avait une anecdote qui était drôle quand même. Une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui vient toquer. On n'était pas sur le Plassy, mais bref. J'étais à un endroit, et quelqu'un arrive et vient toquer et dit « Ouais, je suis sur un festival à Bécherel, je manque de monde et tout pour... » Enfin, j'ai besoin d'un coup de main sur une ou deux heures. Est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu sais si d'autres personnes sont dispo? J'accepte. Et puis à un moment, je regarde, je dis, mais en fait, tu étais à Bécherel, pourquoi tu es venu ici toquer aux maisons pour demander de l'aide? Il a dit, parce que si tu as besoin d'un coup de main, tu viens à Saint-André, tu demandes de l'aide et tu sais que tu vas avoir des gens. Et c'est vraiment un truc. ça fait un peu niais et récit en carton, mais enfin, on le vit vraiment au quotidien. Il y a vraiment ce truc de l'entraide. Je viendrai sur l'éprouvette après, mais notamment, je pense, un truc qui est important de présenter dans le village, c'est que déjà, il y a une grosse opposition politique entre gauche radicale et extrême droite, ce qui se ressent dans les votes, mais ce qui se ressent aussi dans le village. Enfin, ça se ressent pas parce que je pense que les personnes qui sont plus sur le pan extrême droite, on les voit moins. En tout cas, ils sont pas à l'éprouvette. L'éprouvette incarne plus la dimension gauche radicale, en tout cas sur les 14 dernières années, quand Sylvie et Franck tenaient le Café Concert. C'est vraiment cette identité-là, militante et alternative, qui marquait le lieu. Et c'est pour ça que ça cristallisait des tensions aussi dans la commune. Mais un truc important, avant de revenir sur l'histoire de l'éprouvette, c'est de dire que j'ai trouvé que c'était pour moi une belle leçon pour l'association Amolégé d'avoir un des premiers Amolégé qui s'installe à Saint-André-des-Eaux, parce qu'on n'arrive pas justement dans cette caricature du petit village qui serait à redynamiser, de nous on apporte quelque chose de complètement nouveau. En fait, des maisons autoconstruites et écologiques, il y en a plein dans le village. Et justement, je pense que les tensions que notre projet a apportées, c'était le fait qu'on soit une énorme goutte d'eau en plus dans ce contexte-là. Mais juste, du coup, c'est pas un profil du « il y a des néo-ruraux qui arrivent avec des nouveaux usages ». Non, en fait, j'ai l'impression qu'on s'inscrit dans une histoire. Alors, avec des éléments en plus techniques, enfin, liées à nos choix philosophiques et structurels dans le projet, sur le fait qu'on n'est pas propriétaire du terrain, etc. On pourra y revenir plus tard. Mais sinon, voilà, j'ai l'impression d'être comme une nouvelle forme dans ce qui existait déjà dans le village. Et pour l'éprouvette, Clément a dit, c'est le dernier commerce du village. C'est aussi la seule place publique. L'église, elle ne fait pas office de place publique. Et c'est aussi l'ancienne école du village. Donc il y a des gens, hier, il y a une dame qui me disait « Ah là là, mais... » Bon, j'étais revenue déjà, mais moi j'ai eu mes cours ici quand j'étais petite. Et du coup, c'est assez rigolo, l'histoire de l'éprouvette. Alors, donc ça a été l'école du village. Après, si mes souvenirs sont bons, ça a été repris par l'équipe municipale dans les années 50-60. C'était une sorte de café-bar succursale de l'équipe municipale, de ce que j'en ai compris. Et après, ça a été tenu par différents propriétaires, certains qui sont restés longtemps, une dizaine d'années, voire plus, comme Sylvie et Franck, et d'autres sur du plus court terme. Et du coup, c'est assez étonnant l'identité du lieu, parce que bon, le bâti montre que c'était une école, il y a le côté cours d'école à l'avant. En même temps, on le voit plus parce qu'on l'a repeint, mais on voyait les traces au plafond des années 50-60 où c'était OK de fumer à l'intérieur et où du coup les plafonds sont jaunes atroces. Enfin, il y a un peu toutes ces étapes. Et l'éprouvette, oui, sur la en tout cas sur l'identité de l'éprouvette en tant que café-concert qui a été créé par l'activité de Sylvie et Franck. Il faut savoir que ça a été une grande époque pour la musique à Saint-André-des-Eaux, avec la création de deux festivals, avec tout un réseau d'artistes. Enfin, l'éprouvette est quand même un lieu qui est connu à l'échelle locale, mais aussi plus loin, puisque on est quand même à une demi-heure. On n'est qu'à une demi-heure de Rennes. Donc en fait, pour les musiciens, les personnes qui sont du milieu, c'est pas non plus si loin, l'éprouvette. Et on sent qu'il y a vraiment un affect par rapport à ce lieu. Et nous, on avait envie de s'inscrire dans cette histoire en apportant quelque chose de nouveau et en repartant. Ouais, on avait envie d'apporter notre patte, mais on avait envie de respecter l'existant. Par exemple, il y a eu des conseils différents, mais on nous a, par exemple, conseillé à un moment de dire « Ah non, mais l'éprouvette, faut changer de nom, c'est trop marqué. L'identité du lieu est trop marquée, il faut repartir d'une page blanche. » Pour moi, ça aurait été une erreur notoire. Enfin, je pense que ça, c'est des aspirations de personnes qui ont envie que ça change complètement et qui ont envie de trouver un commerce, moins un lieu de vie culturel. Oula, je sais pas si tu avais d'autres trucs.
Non. Très bien. Check. Histoire.
C'est marrant parce qu'on parle du village, on arrive à l'éprouvette.
Et... Oui. Moi, c'était vraiment premièrement une aspiration personnelle de vivre de cette manière-là, que j'ai expérimenté plein de manières de vivre, enfin, collectif, communauté, voilà, avec différents degrés de mutualisation et de vivre ensemble. Et c'était vraiment une aspiration, un rêve, ouais, qui allait se réaliser, ouais. Et à la fois, oui, le fait de contribuer au projet d'âme léger, voilà, j'avais aussi commencé à faire moi aussi ma part dans le côté politique qui était important pour moi. Pendant mes études, ouais, j'ai aussi essayé de trouver du sens, c'est d'avoir une sorte d'impact, en fait, sur minimum d'impact sur le changement sociétal, participant à des actions de désobéissance civile ou d'alternatiba, voilà, j'essaie de me chercher. Et là, dans les alternatives, plutôt, là, j'ai trouvé plus de sens et d'équilibre, ouais, par rapport à la désobéissance. Mais oui, c'était quelque chose aussi, un questionnement à moi, que je me suis posé, est-ce que j'ai vraiment besoin de vivre en collectif? J'ai aussi réfléchi à un projet de maraîchage, est-ce que ça aurait été aussi une manière de avoir un terrain à disposition, habiter et être maraîcher, voilà. Mais je trouvais que vraiment, vraiment répondre à la sobriété, le partage, vraiment ça apporte un plus de mutualiser des biens et aussi de une certaine résilience, en fait, au niveau social, d'être partagé des savoirs et à l'avenir, on va pouvoir faire face aux problèmes sociétés qu'on va faire, être de l'entraide. Donc je trouvais ça cohérent et aussi, ouais, je me projette vraiment à long terme avec le collectif actuellement, une grande confiance et même, voilà, j'aspire aussi à, dans mon habitat, je compte pas faire d'habitat démontable. Comme je me projette à long terme, en fait, pour moi, je trouve ça, voilà, plus sensé de faire directement un habitat biodégradable qui est en soi réversible, puisque c'est des matériaux biosourcés qui sont compostables. Mais je suis quelqu'un qui, voilà, pousse jusqu'au bout la sobriété, voilà. J'ai envie d'utiliser les matériaux les plus locaux, les plus écologiques, donc faire une maison en terre paille, par exemple, avec le moins de bois possible, par exemple, avec de la paille porteuse, une toiture avec des bardeaux de bois, enfin voilà. C'est un peu mon kiff.
Eh bien, on est arrivé il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an, ce qu'on a voulu obtenir, c'était un accord de principe de la mairie, qui n'était pas un accord définitif, mais qui nous permettait de nous dire « Ok, on s'engage à commencer à travailler sur le projet du hameau léger du Plassis et de reprise du café-concert L'Éprouvette ». Accord qu'on a obtenu en janvier, il me semble. À la suite de cet accord, on a travaillé, on s'est rapproché du territoire en vivant à Calorguin, en coloc à 10 avec un bébé, et en confinement et en travaillant tous ensemble, pour structurer les deux projets sur les aspects de la gouvernance. Là, ça a été un peu la période de l'écueil du... qui était lié au fait qu'il y a une communication sur le projet où on n'était pas consentant et où le contenu était erroné et qui nous apportait pas mal de préjudices. Autre écueil, ne pas faire ce type de projet en période de crise sanitaire parce que tu ne peux pas faire de réunion publique et que du coup c'est difficile pour l'acceptation locale parce que les personnes les plus méfiantes vont croire que la mairie cache des choses. Voilà, donc la période du printemps l'année dernière, c'était vraiment la période de nous savoir comment on déterminait la gouvernance du projet de reprise du café et du hameau léger du Plassis. Est-ce que c'était la reprise du café-concert était inscrite dans la raison d'être du hameau léger du Plassis ou non? La réponse a été non. Qui travaille sur quoi? Comment on répartit les équipes? Donc c'était beaucoup. Voilà, c'était du travail sur ordi et après. quand même, c'était le début au printemps de l'intégration du... On commence à vraiment fréquenter souvent les prouvettes, à devenir bénévole dans des associations locales, à commencer à rencontrer un peu tous les habitants. Et puis, en juillet ou en juin, fin juin du printemps dernier, il y a eu la validation définitive du conseil municipal qui donnait les pouvoirs au maire pour signer le bail emphytéotique pour le hameau léger du Plassy et le bail commercial pour la reprise de l'éprouvette. Ouais, peut-être dans les écueils à éviter. Ouais, en tout cas, je trouve que peut-être un écueil, c'est le fait que on est venu nous chercher pour les deux projets, mais pour favoriser l'acceptation de ce projet-là, dans le récit, la reformulation de l'histoire, ça a beaucoup insisté sur le fait qu'on était des repreneurs du commerce à qui on donnait l'accès à un terrain pour habiter. Ce qui n'est pas tout à fait l'histoire telle qu'on l'a vécue, et ce qui a engendré beaucoup de pression, parce que l'éprouvette cristallise beaucoup d'enjeux pour la commune. Et du coup, peut-être l'écueil, c'est peut-être de ne pas vouloir... oui, à montrer patte blanche. Moi, avec du recul, en tout cas par rapport aux institutions, plus que par rapport aux habitants, je pense qu'il y aurait un peu moins de chercher à être exemplaire. Voilà, on nous a... L'injonction de l'exemplarité... Moi, pour moi, elle n'est pas tellement OK, finalement, avec du recul. Nous, on s'est mis cette pression-là parce qu'on illustrait aussi... il y avait beaucoup d'enjeux sur le hameau léger du Plassy, pour l'association hameau léger, pour montrer que, oui, on est capable, en fait, de faire quelque chose qui s'intègre bien dans un territoire. Mais, en tout cas, recevoir l'injonction de l'exemplarité en local, pas de la part des habitants, hein, mais pour moi, c'est un écueil dans lequel on est tombé en voulant tellement bien faire que c'est pas patte blanche qu'on a montré. Je pense qu'on a montré notre bras entier. Et je pense que ça peut être usant et qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en arriver là. Enfin, c'est peut-être pas la peine. Voilà. Après, en juin, du coup, après la validation, là, ça a entré dans la période de concrétisation. Il y avait déjà eu du travail sur... commencer à travailler pour l'obtention du permis d'aménager pour le terrain et du permis de construire. Le permis de construire, c'était pas encore le cas. Le permis de construire, c'est pour les espaces communs. Et à l'été, on savait qu'on n'aurait pas ces documents d'urbanisme validés avant un certain temps, surtout qu'on est dans une zone préservée parce qu'il y a la vieille église, donc on est dans une zone sans co-visibilité, mais où il y a l'architecte des bâtiments de France qui donne quand même un avis. Donc ça crée aussi plus de délais dans l'obtention des validations des documents d'urbanisme. Et en fait, on a installé les premières maisons dans le cadre... C'est pas dans un cadre du code de l'urbanisme, c'est dans le cadre de l'événementiel, dans le cadre d'un événement temporaire dans lequel c'est OK... d'installer des structures sans fondation. Et donc, on a déposé à la mairie un événement temporaire de préfiguration du hameau léger du Plassy, ce qui nous a permis d'installer cet espace commun et, en termes de démonstration, la maison de Xavier et de Clémence, pour montrer ce qu'on allait faire et pour commencer à s'installer dans l'attente de l'obtention des documents officiels. Permis d'aménager. Donc ça, c'était les premiers bâtiments ont été posés en août, septembre. Et par rapport au projet de l'éprouvette, il y a eu beaucoup de reports. Les travaux de remise aux normes du commerce devaient avoir lieu en septembre, donc un peu de manière simultanée à la période dont je venais de parler. Et ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu des délais. Du coup, on a repoussé la reprise de l'éprouvette que nous avons enfin repris là, début mai. Et puis, il y a eu la construction de la maison de notre maison avec Thibaut en mars. Et l'obtention du permis d'aménager est arrivée courant de notre chantier. Et maintenant, il y a la maison de Thomas et Clémentine qui se construit. Et à la suite, il y aura celle de Nolwenn. Et à la suite, il y aura les espaces communs cet été. Moi, j'ai une grosse peur. J'ai très peur que on n'aille pas assez vite. Il y a plein de voix différentes en moi qui ne sont pas d'accord, mais j'ai peur. Je crois qu'il va d'abord y avoir plus des crises sociales qu'un effondrement sur la question écologique. Mais même sur ces crises sociales, j'ai très peur que sans s'en rendre compte, on soit en train de créer des lieux pour des élites dans les campagnes, dans des lieux qui vont avoir plus de résilience que les villes. Et qu'en fait, on ne se rende pas compte de la carte géographique à l'échelle de France, on va dire, qu'on est en train de créer. Et que progressivement, les élites, alors pas forcément financières, je parle d'élites, mais en tout cas les privilégiés, les personnes qui ont eu des privilèges, que ce soit en termes financiers ou de capital socioculturel, dont j'estime faire partie, j'ai peur que sans s'en rendre compte, on participe à quelque chose d'injuste, parce que du coup, on ce serait un modèle de géographie française où finalement il y aurait des grosses injustices et où en fait pendant des années on aurait raconté que oh regardez on crée des nouveaux usages, regardez comme c'est chouette. Et où finalement, en fait, on aurait créé des petites bulles privilégiées dans un monde qui se détériore progressivement. Ce qui me nourrit dans Hameau Léger par rapport à ça, c'est qu'il y a une réflexion là-dessus. Après, il y a ce qui est interne à l'association et il y a ce qui est sociétal. On ne peut pas changer la société, mais par contre, il y a une réflexion sur le comment on fait, quelle stratégie on développe pour permettre au plus de monde possible d'accéder à ça. Sauf que souvent on dit oui mais c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que là on démontre le modèle, on expérimente, donc c'est normal que ce soit plus compliqué. Mais ce sera plus simple avec le temps parce qu'on crée des outils, parce qu'on accompagne des collectivités, des collectifs. En réalité, quand je vois que à Saint-André-des-Eaux, pas du côté des habitants, mais par rapport aux institutions, on est tous jeunes, on a quasiment tous fait des études, y a pas mal de couples, donc il y a déjà un enfant, et il y a pas mal de couples, donc on peut projeter qu'on pourrait faire d'autres enfants, on n'est pas racisé, et pourtant, ça a été compliqué. Moi, peut-être que ça peut bouger, mais ça me rend extrêmement triste, parce que ça m'enlève de l'espoir. Et du coup, je pense que, en fait, déjà dans l'habitat participatif, il y a déjà pour moi pas mal de freins à l'accessibilité pour toutes et tous, parce que ça demande, en fait, un projet d'habitat participatif en autoconstruction. Mais déjà, il faut voir le nombre de compétences différentes que ça demande. Je dis pas que je les... Enfin, moi, personnellement, je les avais pas toutes du tout. Mais du coup, ça me demande... d'apprendre plein de choses, donc ça demande une disponibilité, c'est une insécurité en termes financiers et en termes de temps. J'ai pas répondu d'ailleurs à cette question sur ma situation professionnelle, mais actuellement, en tout cas aux yeux de la société, j'en ai pas. Enfin, j'ai monté une entreprise, mais je dois déclarer que je suis sans activité. Mais du coup, cette insécurité et instabilité liée au projet du « on a travaillé pendant 6 mois à plein temps sans savoir si la mairie allait nous accepter ou pas », qui peut se permettre ça en fait? Enfin, il y a plein de freins. Et en même temps, il y a un truc qui me sécurise... Enfin, une autre voix en moi qui me sécurise, qui me dit, mais en fait, t'es qui pour dire à qui... bonjour, la posture humble. T'es qui pour dire aux Français, bonjour, venez vivre comme nous. Enfin non, en fait, il y a plein de gens qui ont envie de vivre complètement différemment. Et on n'est personne pour leur dire, non mais venez, c'est urgent, il y a des crises sociales et environnementales en cours. Et du coup, ça me tranquillise parce que du coup, ça me change le public auquel je m'adresse. C'est-à-dire que j'ai moins l'impression de m'adresser à d'autres gens qu'il faudrait convaincre que c'est la bonne manière de faire, plutôt que l'impression de m'intéresser aux institutions en leur disant « Regardez, on est en train de faire bouger les choses et on y arrive. Et on arrive à créer des nouveaux imaginaires. Et c'est pas que du blabla, c'est des nouveaux récits, des nouvelles expérimentations. Et en plus, on fait bouger les cases. »